Si nombreux et désolé de ne pas savoir mieux vous accueillir. Cette conférence a été un peu improvisée sur les deux agendas de Richard Stallman et d'Albert Jacquard. Elles ouvrent le festival des arts libres de libre accès, où on a d'autres événements, notamment le 17 juin, un concert à la gare expérimentale où des musiciens vont jouer et qui diffusent leur musique uniquement en licence libre. Et le 20 juin, trois projections de cinéma parrainées par deux collectifs qui sont Cassandre Orchamps et Cassandre, le collectif de cinéma, qui s'intéressent donc à la libre diffusion. Donc je fais un petit rappel, on a la chance d'être accueillis en mairie du 2. Pour être bien accueilli, il faut respecter. Et ici, c'est limité à 80 personnes, donc je vous invite vraiment à aller en salle des mariages. Je suis désolé pour ceux qui ne verront pas grand-chose, mais on ne peut pas être plus de 80 si on veut respecter cette maison qui nous accueille. Et d'ailleurs, je tenais à remercier dans cette aventure de Libre Accès. Ça fait 4 ans qu'on fait des choses ici. Et en fait, ce n'est pas non plus par hasard, parce qu'il y a une dame avec laquelle on travaille depuis 3 ans qui s'appelle Dominique Butin-Priest, qui est une poétesse. Et en plus d'être poète, qui est la chef de cave du maire, Jacques Couteau. Et cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu sans elle, sans la facilité qu'elle a donnée à une petite association comme Libre Accès, qui est faite d'un collectif hyper agissant, mais qui a quasiment aucun moyen. Donc le collectif Libre Accès, je suis obligé de citer des personnes importantes. Rico d'Alvarez et Biture Extrême de l'association Musique Libre. Joseph Paris, qui vient filmer aujourd'hui du collectif Cassandre. Antoine Moreau, qui a fondé la licence Art Libre, qui est la licence que nous on préconise à Libre Accès, parce qu'on trouve qu'elle est vraiment copyleft, ça veut dire elle est en adéquation avec ce qu'on prend, c'est-à-dire la possibilité de copier une œuvre, la diffuser et la modifier, voire, plutôt que de modifier, la transformer. Voilà. Je tenais aussi à saluer Benjamin Jean, le juriste de Libre Accès, qui est aussi suractif. Didier Guillon-Cotard qui mène un festival des arts libres à Lyon, voilà, il y a un collectif, et moi je suis Jérémy et je suis au sein de ce collectif, sans oublier Mathieu Pasquini qui essaye de mener un travail d'édition novateur autour du libro Veritas. Ce collectif est modeste, mais il est ambitieux dans le sens où on a conscience que plus que jamais ce qui allait de soi, ce qu'on pensait être une prose comme le langage, comme disait M. Jourdain, devient quelque chose de fondamental, car plus que jamais les auteurs qui créent se trouvent au centre à travers les débats du droit d'auteur instrumentalisés sur des personnes qui sont en train de vouloir mettre en propriété la pensée. Et on sait très bien que si on commence à vouloir mettre en propriété la pensée, il n'y a plus de création possible. C'est ce qui passe quand on empêche une personne de copier une musique, par exemple, de pouvoir donner des partitions. Un autre acteur important de Libre Accès, c'est une école de musique, Musique Tangente, qui fait le son ce soir, avec Bruno Mokil qui est là. Et Bruno, ça fait par exemple plus de 20 ans qu'il se bat dans le jazz pour avoir le droit de donner des partitions à ses élèves. Maintenant, c'est interdit pour apprendre, on n'a plus le droit de donner une partition de musique, parce qu'on considère que donner une partition de musique à un élève, c'est enfreindre le droit de l'éditeur et c'est empêcher des auteurs de toucher de l'argent dessus, quand on sait très bien que s'il n'y a plus personne qui apprend la musique, si on ne peut plus donner de partition à des élèves, et ben il n'y aura plus d'amateurs d'art et finalement il n'y aura plus des personnes en capacité d'acheter des œuvres qui ont de plus en plus de mal à vivre actuellement, comme ce qu'essaye de défendre Musique Tangente, ça veut dire du jazz, du rock indé, de la musique électronique ou des expérimentations musicales. Donc on est au cœur, ce soir, de ce qu'on appelle les biens communs, ce qui nous appartient à tous, et notamment les biens communs cognitifs, ça veut dire qu'est-ce qui nous permet de faire de la recherche, qu'est-ce qui nous permet de créer, et c'est pour ça qu'on tenait à cette rencontre. Rencontre avec, pour nous, et on est très modeste, deux des, pour moi, des plus grands humanistes de ce siècle, qui sont Richard Stallman et Albert Jacquard. Et je tenais à saluer le travail de Richard Stallman, parce que Richard mène un travail complètement insensé de précision. Il est toujours celui qui pense la logique des choses et qui nous alerte sur les dangers. Son combat contre les menottes numériques est en ça exemplaire. Son combat... Et donc, il y a aussi Albert Jacquard qui est venu, qui est un autre humaniste qui s'est battu sur le droit au logement, sur l'égalité de tout un chacun. Donc ce sont deux hommes qui préservent notre humanité, qui vont, je pense, nous apporter des choses et des pistes sur comment préserver ce qu'on pensait jusqu'à présent appartenant à tous, c'est-à-dire la pensée. Et la pensée m'appartient à moi en tant qu'attention, mais je ne peux pas privatiser des choses qui sont à tous, comme une formule mathématique, comme un poème, etc. Voilà, je tenais aussi à donner la parole à la mairie qui nous accueille avant de vous laisser. Je vous remercie.
Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être tous aussi nombreux présents. Bienvenue dans la mairie du 2e arrondissement, la seule mairie verte de Paris. Je sais, je le répète à chaque fois, mais ça me fait plaisir. Je suis très heureux d'accueillir Albert Jacquard et Richard Stallman pour ce débat qui sera animé par Jean-Pierre Archambault. Alors, Jacques Boutot-Lemaire est vraiment désolé de ne pouvoir être présent. Il connaît Albert et Richard, il a même participé il y a quelques années avec Albert Jacquard, un jeune pour l'abolition des armes nucléaires qui se déroulait dans l'immeuble des petits pères, juste à côté de la mairie. Alors, comment garantir les biens cognitifs de l'humanité? Bon, ici, modestement, en mairie du 2e arrondissement, nous sommes équipés de logiciels libres, en partie. Nous souhaitons aller plus loin, mais bon, cela dépend un peu de la ville de Paris. Plus largement pour Europe Écologie Les Verts, le partage des savoirs en général, mais aussi des semences, pour ne citer que cet exemple, doit se faire librement. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, parce que je sais que le débat va être très riche, très intéressant, que vous êtes tous impatients d'entendre nos intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée à la mairie du 2e.
On ne présente plus Albert Jacquard et Richard Stallman, d'autant plus qu'ils viennent d'être présentés, hein, deux scientifiques de renom international, généticien, informaticien, deux humanistes. Alors, pour nous parler de cette importante question de la préservation des biens communs cognitifs, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y a 2500 ans, Pythagore interdisait à ses disciples de divulguer et les théorèmes et les démonstrations. Depuis, la recherche scientifique, la science avait évolué, avait changé de méthode, mais on a un peu l'impression de régression qui nous ramène un peu à 2500 ans en arrière. On a un peu l'impression, qu'aujourd'hui, l'objectif, le fil conducteur principal de la recherche scientifique, c'est de créer des monopoles privés au détriment de la production de connaissances. Donc, on est là pour en parler, et tout de suite, je me tourne vers notre invité qui a traversé l'Atlantique pour venir nous voir, Richard Stallman, de Copyleft, la recherche scientifique. À toi, Richard.
Moi, d'abord.
Oui, tu es l'invité.
Oui. D'accord. Le sujet de...
Comme ça? Oui. Comme ça, peut-être? Oh.
Je n'aime pas ce goût. Peut-être, est-ce qu'il y a un microphone de chocolat?
On essaie de commander, sinon on essaie.
Est-ce que ça marche?
Oui, c'est mieux.
Oui. J'ai du mal à aborder ce sujet parce que c'est un mélange étrange d'autres questions. Et je ne sais pas le faire sauf en séparant les questions. Parce qu'il s'agit de la liberté cognitive.
Mais vraiment, on a toujours la liberté de penser. Le problème commence quand on essaie d'exprimer les pensées dans les mots écrits. Parce que comme ça, il y a des lois qui sont capables de l'interdire. Surtout le droit d'auteur est capable de le faire, mais il faut distinguer bien le droit d'auteur des brevets. Les brevets font d'autres choses et normalement ne limitent pas le contenu d'un livre, par exemple. Il n'y a que le droit d'auteur qui limite les mots dans un livre. Et donc vraiment, il s'agit plutôt du droit d'auteur. Et pour comprendre bien le droit d'auteur, il faut le distinguer complètement des autres lois, comme la loi des brevets ou la loi des marques, qui font d'autres choses, qui ont d'autres... qui exigent d'autres choses, qui interdisent d'autres choses. Vraiment, ces lois n'ont rien à voir entre elles, mais elles se confondent souvent sous l'expression propriété intellectuelle. Cette expression ne signifie rien que confusion. Et donc, pour parler clairement, il faut ne pas l'utiliser. Et je ne l'utilise jamais. Je mentionne cette expression pour la critiquer. Je ne l'utilise jamais. Parce que je veux considérer les questions complètement différentes de chaque loi. Donc le droit d'auteur interdit de copier, même avec des changements, même avec transformation, la parole d'une œuvre d'autre. Mais si ça étant trop loin, ça peut gêner la création des œuvres. Et donc, cette loi a la tendance d'être destructive de ses propres buts. Mais pourquoi est-ce qu'on interpréterait une loi de manière à nuire son but? C'est parce que ce sont les entreprises qui donnent les ordres et pas la démocratie. Sous l'empire des grandes entreprises, n'importe quelle loi peut être transformée en mesure de pouvoir injuste. C'est la tendance normale d'un État qui obéit aux entreprises, comme par exemple l'État français sous Sarkozy et l'État américain sous Obama. L'un ou l'autre, ils sont des chevaliers serveurs des entreprises. Ils sont des fonctionnaires de l'Empire. Et sous l'empire des entreprises, les choses vont de pire en pire. Et c'est comme ça que Sarkozy propose toujours des lois, chacune plus injuste que l'autre, sur l'Internet. Parce que son idée de la civilisation dans l'Internet est la civilisation soviétique, surveillance et censure. Mais, quant au droit d'auteur, je ne propose pas d'éliminer le droit d'auteur. Mais il y a des libertés essentielles pour l'utilisation des œuvres publiées selon le type d'œuvre. Il y a les œuvres d'utilisation pratique, dont la contribution à la société est de s'utiliser dans les travaux de la vie. Il y a aussi les œuvres d'opinion et de témoignage qui sert à montrer la pensée de quelqu'un. Et il y a aussi les œuvres d'art et de diversion, dont la contribution et dont l'impact de l'œuvre. Et je recommande des réductions, des diminutions dans le droit d'auteur selon la catégorie de l'œuvre. Pour les œuvres d'utilisation pratique, il faut commencer par noter que le logiciel est un exemple d'une œuvre d'utilisation pratique. Et je crois que j'ai lutté pour presque 30 ans pour que les programmes soient libres, pour qu'ils respectent la liberté et les droits de l'homme des auteurs. Mais toutes les œuvres d'utilisation pratique doivent le faire. Quelles autres œuvres d'utilisation pratique y a-t-il ? Il y a les recettes de cuisine. Et c'est normal que les cuisiniers copient les recettes, échangent les recettes et diffusent leur version des recettes. Les mêmes libertés qui définissent le logiciel libre et pour la même raison. Parce que les cuisiniers utilisent les recettes pour faire des travaux dans la vie, pour faire des résultats, c'est-à-dire la cuisine. Donc, ils méritent le contrôle des œuvres qu'ils utilisent dans les travaux. Juste comme l'utilisateur d'un programme mérite le contrôle de l'œuvre du programme qu'il utilise. Il y a aussi les œuvres de référence et les œuvres éducatives et qui doivent aussi être libres. Parce que les utilisateurs de ces œuvres méritent le contrôle des œuvres. Et quelles sont les quatre les libertés qui définissent en ce cas qu'une œuvre soit libre? Il y en a quatre libertés essentielles. La liberté d'utiliser l'œuvre comme tu veux, sans restriction de licence, par exemple. La liberté d'étudier l'œuvre dans la forme plus commode pour l'étudier et de le changer dans cette forme plus commode pour le changer, pour que l'œuvre fasse ton travail comme tu veux. Et aussi la liberté de diffuser des copies exactes de l'œuvre, c'est-à-dire la liberté d'aider les autres. Et la dernière liberté, numéro 3, c'est parce que c'est 0, 1, 2 et 3. Donc la liberté numéro 3, c'est de diffuser des copies de tes versions modifiées de l'œuvre. C'est-à-dire la liberté de contribuer à ta communauté. Parce que il ne suffit pas de protéger la liberté cognitive, ni de protéger la domaine public. Il faut l'augmenter. Protéger ne suffit pas. Et donc, les œuvres d'utilisation pratique doivent être contribuées à la liberté cognitive et la liberté pratique de faire des travaux dans la vie. Quand je dis la liberté de l'utiliser comme tu veux, ce ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Il y a des mauvaises choses qu'il ne faut pas faire. Comme par exemple, si tu as un stylo, tu peux l'utiliser pour la fraude. Mais c'est un crime et il doit être un crime. Je ne suis pas pour la liberté de faire de la fraude, mais l'œuvre ne doit pas porter des restrictions à son utilisation. Faire la fraude est un crime, quoi que soient les moyens utilisés. Donc, pas besoin d'imposer une licence sur le stylo. Ce stylo ne peut pas être utilisé par la fraude. Il suffit d'interdire la fraude. Donc, le stylo ne doit pas porter une licence qui restreigne son utilisation, ni les programmes, ni les recettes, ni n'importe quoi. où quelque chose est mauvais et ne doit pas être fait n'importe comment, ou c'est légal et tu dois pouvoir utiliser l'œuvre pour le faire. Donc, la liberté zéro est essentielle et n'entre pas en conflit avec les lois qui interdisent des mauvaises actions. Et les libertés s'appliquent même au commerce, parce que le commerce est légitime. Je ne veux pas interdire le commerce ni l'éliminer. Donc les libertés d'utiliser les œuvres doivent s'appliquer aussi au commerce. Donc ce qu'on prend, étudier, changer un programme ou une recette pour l'utiliser dans le commerce, aussi la liberté de diffuser des programmes, des copies commercialement. Donc, j'arrive à la conclusion que les œuvres éducatives doivent être libres aussi, parce qu'ils s'utilisent pour un travail pratique. Les États financent la plupart des œuvres éducatives. Les États doivent arrêter de financer les œuvres pas libres. Ils doivent s'assurer que leur argent, l'argent du public, finance des œuvres éducatives disponibles au public, en liberté. Mais il y a aussi la seconde catégorie, les œuvres d'opinion et de témoignage. Publier une version modifiée d'une telle œuvre est de représenter mal quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une contribution, et donc je suis d'accord à avoir un droit d'auteur qui l'interdise. Mais si les gens ne peuvent pas publier des versions modifiées, il n'y a pas besoin qu'ils puissent publier commercialement des copies exactes. Donc, nous pourrions avoir un système réduit de droits d'auteur qui s'applique à toute modification et toute utilisation commerciale. Mais il y a une liberté minimale qu'il faut, que tout le monde doit avoir, c'est la liberté de partager, c'est-à-dire de la distribution non commerciale des copies exactes de l'œuvre. C'est essentiel parce que partager est bon, et parce que c'est très utile, et parce qu'aujourd'hui c'est possible. Quand le droit d'auteur a été inventé, partager des copies était impossible parce qu'il n'y avait pas de copieuse, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc la question que le partage était libre ou interdit était une question sans importance dans la vie. C'est comme la question de légaliser que les gens volent avec les bras. C'est impossible, donc que ce soit interdit ou pas, ne change rien. Mais aujourd'hui, nous pouvons copier les œuvres publiées. C'est très utile, nous voulons les copier, nous voulons partager. Et par conséquent, seulement des lois cruelles et injustes sont capables de l'empêcher. Et ces lois, les lois que Sarkozy cherche à imposer toujours, sont injustes parce que seulement des lois injustes sont capables de convaincre les gens de ne pas les aider les uns aux autres. Donc, partager doit être légalisé. Mais dans cette catégorie, on trouve les œuvres scientifiques. c'est-à-dire les articles qui disent « nous avons fait cette expérience et nous avons vu ces résultats ». Ces articles sont des œuvres de témoignage. Les noms des auteurs sont essentiels parce que c'est leur réputation qui entre dans l'enjeu. Si un problème se trouve après dans cet article, il faut savoir leur nom pour investiguer s'ils travaillent pour une entreprise de médicaments et s'ils ont été corrompus, etc. Comment juger sans savoir le nom de l'auteur? C'est pour ça que ces œuvres se trouvent dans la seconde catégorie. Mais, comme vous savez, il y a un grand problème aujourd'hui d'accès aux articles scientifiques parce que les éditeurs des revues scientifiques ont pris dans l'ère de l'impression le contrôle sur la distribution. Sans même payer les auteurs, ils prennent tous les droits sur les articles pour restreindre la diffusion. Mais dans l'ère de l'impression, ces éditeurs faisaient un service essentiel. Ils ne restreignaient la diffusion, mais plutôt ils faisaient la distribution de la seule manière possible à l'époque. Mais aujourd'hui, la meilleure manière de distribuer ces articles est par Internet sans frein. Et les éditeurs, les entreprises et des sociétés professionnelles aussi se sont transformés en obstacles, en parasites. Ils cherchent à bloquer l'accès aux articles scientifiques. Ils interdisent la redistribution des articles. Il faut leur ôter ce pouvoir. Il faut légaliser le partage des articles scientifiques et très vite, les universités du monde organiseraient la redistribution de tous les articles pour les rendre facilement et commodément disponibles à tout le monde, avec beaucoup de sites de répétition. Et comme ça aussi, nous éviterons le danger de perdre ces œuvres dans un désastre. Si l'œuvre n'est disponible que dans un site, c'est un grand risque. Et même si cette organisation a un dépositoire de sauvegarde, ce sont deux sites. Un désastre peut détruire deux sites dans le même pays. Il faut 50 dans tous les continents et quelques-uns dans l'intérieur bien protégés des tsunamis, des astéroïdes, de n'importe quoi. Et ce serait très facile parce qu'un site de distribution peut être un PC normal. Ce suffit aujourd'hui pour distribuer beaucoup de revues scientifiques. Donc, ce serait très facile, il ne faut que le permettre. Mais il y a aussi les œuvres d'art et de diversion. Et je propose que pour 10 ans, il y ait un droit d'auteur sur l'œuvre, mais que même dans cette période, que le partage soit légal, parce que partager est bon. N'importe quel essai d'interdire le partage attaque la société. Il ne faut jamais. Mais dans 10 ans, l'œuvre tombera au domaine public et tout le monde pourra publier leur version modifiée de l'œuvre. parce qu'une version modifiée d'une œuvre peut être aussi une contribution à l'art. Mais il y a aussi la pratique de remix. Je ne sais pas le dire en français. Remix veut dire, mais il n'y a pas de mot vraiment français pour ça. L'Académie devra inventer un pour préserver la langue. Mais le remix veut dire prendre des morceaux de plusieurs œuvres et les combiner pour faire quelque chose complètement nouvel, complètement différent. Et ce doit être légal. Et si l'État interprétait le droit d'auteur pour son but légitime, il serait légal. Mais l'État s'est rendu aux entreprises, à l'Empire, et fait la volonté des entreprises dans chaque domaine. Dans le domaine de l'édition, il fait la volonté des grandes entreprises de l'édition qui cherchent toujours à restreindre n'importe quoi qui ait quelque relation avec une œuvre. Et c'est comme ça que la création même des nouvelles œuvres est restreinte par le droit d'auteur. Le remix doit être légal, évidemment. Mais en légalisant le partage, nous pouvons réduire un petit peu le système qui appuie un tout petit peu les artistes. Il faut noter que ce système fonctionne très mal, avec quelques exceptions. Il y a des grands stars qui reçoivent beaucoup d'argent par le système actuel. Et tout le reste reçoivent pas vraiment assez ou presque rien. Donc c'est un système qui ne fait pas bien son but. Je rejette complètement l'idée de rémunérer les artistes parce que ce mot « rémunérer » suppose qu'ils font un travail payé et que nous avons le devoir de leur payer, que nous avons une dette à l'artiste pour avoir apprécié l'œuvre. Et c'est absurde. Voici des œuvres, je peux les apprécier. Est-ce que je dois quelque chose au peinteur? Non. Il n'y a pas de telle dette. C'est un conseil absurde. Ce qu'il y a est le désir d'appuyer les arts. C'est autre chose. Je veux pouvoir voir, écouter, etc., l'art. Donc, je reconnais la responsabilité d'appuyer les artistes. Mais c'est autre chose. Quand il parle de rémunérer les... Il parle aussi des ayants droit. Ils disent les ayants droit comme... j'ai oublié le mot, c'est comme swindle, comment dit-on swindle?
Escroquerie.
C'est une substitution parce que tu dois penser qu'il s'agit des artistes, mais en vérité il s'agit des éditeurs. Il s'agit des éditeurs qui ont acheté des droits injustes pour nous punir, donc qui ne méritent rien, sauf faire faillite. Mais, et donc, ils gagnent ton appui pour son projet de rémunérer les ayants droit. Tu penses qu'il s'agit des artistes, mais en vérité, ils versent de l'argent aux entreprises. Je rejette ce conseil. Je suis contre rémunérer les ayants droit. Je suis pour appuyer les artistes. Et voici trois manières de le faire en légalisant le partage. D'abord, avec de l'argent public, on peut recueillir de l'argent par un impôt spécial ou utiliser de l'argent public, du budget normal. La question est comment le dépenser pour appuyer bien les artistes. Je propose de diviser la quantité entre les artistes en fonction de du succès de chacun. Comme le système actuel. Le système actuel prétend de donner de l'argent à chaque artiste selon son succès. Mais dans ma proposition, il ne sera pas divisé en proportion linéaire au succès de chacun. Parce que comme ça, plusieurs grands stars reçoivent beaucoup d'argent et les artistes succès moyen reçoivent très peu. Parce que le star peut facilement avoir 1000 fois le succès d'un musicien assez connu ou artiste assez connu, mais pas star. Et donc, avec la proportion linéaire, le star recevrait 1000 fois l'argent de l'autre artiste. Donc, nous faisons le star très très riche, ou l'autre artiste ne reçoit assez bien pour ses besoins normaux, et donc le système ne fonctionne pas. Ce n'est pas efficace comme système d'appuyer les artistes. Donc, je propose de diviser l'argent selon la racine cubique du succès de chacun. La racine cubique a cette forme. Si le star A 1000 fois le succès de l'artiste B, par la racine cubique, A recevra 10 fois l'argent de B. Pas 1000 fois, mais seulement 10 fois l'argent de B. Et donc, presque tout l'argent ira aux artistes pas stars pour appuyer de manière adéquate beaucoup d'artistes pas stars. Et chaque star recevra plus, mais pas énormément plus. Et comme ça, nous pourrions appuyer beaucoup meilleur à beaucoup plus d'artistes avec moins d'argent. Parce qu'il ne s'agit plus de rendre très riches les stars et il ne s'agit plus d'appuyer les entreprises. Mais, autre moyen est de donner à chaque reproducteur un bouton pour envoyer une petite somme d'argent aux artistes, à l'anonymat et de manière efficace. Et comme ça, presque tout le monde enverra des fois quelque argent aux artistes. Je suppose que chacun de vous pourrait le faire une fois par jour sans noter la perte d'argent. Si c'est peut-être 1 euro, je crois qu'un euro serait une quantité appropriée en France. Mais chaque pays choisirait la quantité pour maximiser la quantité totale envoyée. On peut aussi combiner les deux systèmes. Francis Muguet, il y a 2 ou 3 ans, a inventé un système, le mécénat global, et il m'a invité à participer dans la conception de ce système. Son idée était de suivre les relations juridiques actuelles pour faciliter l'adoption de ce système, et j'ai apporté l'idée d'appui selon la racine cubique. Et donc ce système fonctionne comme si chaque internaute devrait payer une somme forfaitaire mensuelle Et il pourrait attribuer jusqu'à peut-être un tiers de cette somme aux œuvres, comme il veut. Il peut choisir des œuvres et attribuer ce tiers, ou moins s'il veut, aux œuvres. Et pour chaque œuvre, la quantité qu'il veut, jusqu'à un tiers. Et cet argent ira aux artistes de cette œuvre. Mais le reste serait, et c'est mon idée, distribué en fonction, selon la racine cubique du succès calculé par les quantités attribuées à chacun. Donc avec l'attribution que les utilisateurs, que les internautes feront, on peut calculer une quantité de succès pour chaque artiste. Puis, le reste serait divisé selon la racine cubique de ces quantités de succès. Il y a aussi d'autres manières de combiner les deux idées de base. Il peut y avoir d'autres manières de le faire. Le point plus général, c'est que il y a des manières d'appuyer mieux les artistes en légalisant le partage. Avec ces systèmes, tous les artistes diront « prière de partager mes œuvres ». Parce que plus une œuvre se partage, plus l'artiste reçoit. Il faut remplacer le système que nous avons, qui a été inventé dans l'époque de l'impression, par un système approprié à la liberté dans l'informatique de chacun.
Merci Richard, tu as posé des questions intéressantes sur lesquelles on pourra revenir. Tu as notamment dit, là, je suppose qu'il y a un certain nombre d'enseignants dans la salle, que l'État ne devait financer que des œuvres pédagogiques libres. C'est un débat intéressant parce qu'il n'est pas évident en France actuellement. Bon, tu as aussi fait une promotion de la racine cubique, c'est bien. Alors, je vais passer la parole à Albert Jacquard, et pour faire la transition, pour montrer, pour illustrer la globalité, la convergence de toutes ces problématiques, je vais citer John Sulston, prix Nobel de médecine, qui, dans les colonnes du Monde diplomatique en décembre 2002, évoquait les risques de privatisation du génome humain, et il disait: les données de base doivent être accessibles à tous pour que chacun puisse les interpréter, les modifier et les transmettre, et ajoutait-il, à l'instar du modèle des logiciels libres en informatique. Donc, informatique, génétique, même combat. Albert Jacquard.
Je commence par affirmer que je n'ai aucune compétence à propos des racines cubiques. J'aurais personnellement préféré le logarithme. C'est pas pour le plaisir de faire une plaisanterie, mais je crois que la courbe logarithmique se prête mieux que la courbe du cube. Pour obtenir des répartitions qui ont du sens. Mais en amont de toutes ces discussions techniques, il est opportun de s'interroger sur ce que nous considérons comme une liberté intellectuelle. D'accord pour la propriété intellectuelle, on n'en parlera plus, mais une liberté intellectuelle. La liberté de penser ça ou moi, mais la possibilité de diffuser ce que l'on pense, on n'a pas toujours. pensée que c'est en train de régresser. Quelle est donc la vision de l'homme qu'il faudrait avoir pour, en amont de toutes ces discussions, pour essayer d'être cohérent avec notre vision de l'humanité? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Par qui ça a été construit? L'humanité, bien sûr, a été construite par les hommes. Et les hommes ont été construits par qui? La réponse est évidente, par l'humanité. Et je crois qu'il est bon de partir de cette vision où l'humanité a été construite par elle-même et que chacun d'entre nous est le produit de ce qu'il a reçu des autres. C'est, je crois, le concept essentiel. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain? Je suis bien sûr un être vivant, je suis un objet, je suis, on peut définir des quantités de caractéristiques, mais ce que je suis fondamentalement, c'est le membre d'une espèce qui a été capable de se construire elle-même et qui maintenant est capable de se diriger dans les directions qu'elle définit elle-même. Cela donne de chaque espèce, de chaque être humain, une vision qui est nécessairement admirative, émerveillante. Je suis capable de devenir. C'est ça, vivre une vie humaine. Devenir. Devenir en fonction de quoi? En fonction de tout ce qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des cadeaux de la nature, et le pétrole, et le gaz, et toutes les matières premières sont des cadeaux de la nature. Mais ce que l'on reçoit de bien plus décisif, c'est des cadeaux de l'humanité elle-même. Ce que je suis est le résultat de ce que la nature m'a donné, mais s'il y a la nature, au fond, j'y peux rien. Et le résultat surtout de ce que je me suis donné à moi-même grâce aux autres. Et on peut difficilement négliger comme point de départ de notre réflexion la vision extraordinaire de Rimbaud disant « Je est un autre ».« Je est un autre », c'est-à-dire que ce que j'ai de plus riche en moi, c'est ce que j'aurai obtenu des rencontres que j'ai faites. Et finalement, l'essentiel dans une société, qu'elle soit sous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sous Sarkozy ou sous un autre, l'essentiel d'une société est de permettre à chacun de participer à cet échange, à ces liens, et d'admettre comme point de départ que chacun d'entre nous est en fait une série de liens. Je suis les liens que j'ai été capable de tisser et je n'ai pu en être capable que grâce aux autres. C'est à la lumière de cette réflexion-là qui est émerveillante pour chacun, mais qui est, je crois, lucide, que l'on peut raisonner sur la meilleure façon de distribuer, de répartir, de partager toutes les richesses intellectuelles. En manière de plaisanterie, j'avais lors d'une réunion préparatoire évoqué le fait que Archimède aurait pu, il y a quelques, un peu plus de 2000 ans, aurait pu proposer sa vision de la poussée de bas en haut du liquide déplacé. Il aurait pu le distribuer autour de lui, mais avec un droit d'auteur. Et ce droit d'auteur durant encore, les descendants d'Archimède seraient très riches, puisque chaque fois qu'on mettrait le pied dans l'eau, on aurait à payer une petite ristourne de quelques centièmes de dollars ou de notre...
Euro.
Excusez-moi, c'est significatif de l'âge, il y a des mots qui m'échappent. Euro, c'est probablement ce significatif. Euro m'échappait. Le mot euro n'était plus présent dans ma tête. Heureusement que vous étiez à côté de moi. Mais je crois que, j'en profite pour le noter, finalement, on n'est pas maître de ce qui se passe dans son cerveau, mais il faut de temps en temps savoir utiliser les accidents. L'accident du mot euro qui avait disparu me semble significatif. Peut-être qu'au fond, il ferait mieux de disparaître ce mot, définitivement. Non pas pour calculer en dollars, mais pour calculer en autre chose qu'en valeur. Et cela me donne la liaison, remarquable, la liaison avec la réflexion, l'autre réflexion faite en écoutant mon voisin, la réflexion concernant le rôle de l'argent, du fric, de la valeur. Et il n'a pas été question de valeur où j'ai mal compris, mais il a été question du fait qu'il y a une pression de l'argent à toutes les occasions. Lorsque mon voisin a évoqué le rôle de l'État et le rôle des entreprises, en fait c'était le rôle de l'argent. Car le rôle de l'État, car de l'État pour l'argent, c'est un rôle fiscal et de redistribution, alors que pour les entreprises, c'est leur finalité qui est de gagner de l'argent. On ne devrait jamais oublier, chaque fois qu'on fait un choix, et ce qui nous a été proposé, c'est une série de choix, d'évoquer la finalité qui est sous-jacente. Quelle est la finalité d'une entreprise ? Cette entreprise peut être aussi bien un fabricant de semences qu'un éditeur de livres. Quelle est sa finalité ? De gagner de l'argent. Alors que la finalité de l'État, c'est de permettre à chacun de jouer son rôle d'humain véritable, de jouer son rôle de liaison avec tous les autres, sans considérer l'argent. Par conséquent, on est obligé, pour développer des idées concernant la répartition de la propriété, j'allais dire intellectuelle, il ne faut surtout pas, de la propriété des idées, s'apercevoir à quel point elle ne peut être réellement appropriée pour la bonne raison qu'elle est inaccessible. Ce que j'ai de plus riche intellectuellement, c'est ce qui m'a été donné par les rencontres que j'ai faites. Et ces rencontres ont été quelquefois des événements décisifs. Ce que je suis en tant qu'être humain, c'est l'être capable de dire « je », comme je l'ai rappelé à propos de Rimbaud, l'être capable de raisonner et qui met l'essentiel de sa richesse à l'abri de la promiscuité avec la valeur. Et je voudrais, sans aller bien loin, évoquer le rôle néfaste du concept même de valeur, qui était sous-jacent à la plupart des libertés qui ont été évoquées par mon voisin. Sous-jacent, il avait cette idée qu'une entreprise est là pour fabriquer de la valeur, que l'État, lui au contraire, ne fait que s'approprier au nom de tous cette valeur. Est-ce qu'il est normal de laisser une entreprise privée jouer un rôle dans la répartition de la valeur? J'ai pensé en écoutant à une petite anecdote qui a le mérite d'être réelle, ça n'est pas une invention, l'histoire bien connue de Monsieur 5%, l'homme qui avait découvert le moyen de s'enrichir avec des pétroles qui n'appartenaient pas. C'était Monsieur Calix Gulbenkian. Et peut-être que tout le monde connaît cette histoire. C'était dans les années 20. Et c'est très révélateur du rôle de chacun. Dans les années 20, on a découvert du pétrole quelque part dans le nord de l'Irak, à Kirkouk. Et quatre entreprises nationales se battaient les unes contre les autres pour récupérer ce pétrole. Les Français disaient c'est à moi, les Anglais en disaient autant, les Américains et les Hollandais. Donc il y avait quatre puissances décidées à se battre bécaillon pour récupérer le pétrole de Kirkouk. Et ils risquaient de n'avoir rien à voir du tout. Lorsqu'un monsieur Gulbenkian, qui n'avait rien à voir avec le pétrole, qui était directeur d'une galerie de tableaux, ce qui l'a amené à parler pas mal de langues, a fait le tour des quatre nations, des quatre entreprises exactement, en leur disant, vous espérez avoir tout le pétrole de Kirkuk, vous avez peu de chances de réussir, mais si vous voulez, signez-moi ce papier et je vous donnerai 23,75% des bénéfices. Les quatre nations on se sont laissées faire, on dit d'accord, et finalement ça a été réparti. Chacun des quatre a reçu 23,75%. Mais on s'est aperçu à ce moment-là que 4 fois 23,75, ça fait 25. Il reste donc 5% pour M. Gulbenkian. Il n'a pas créé de valeur. Il a simplement joué le jeu de faire se heurter des gens, de faire s'opposer et de faire que cette opposition soit finalement féconde, essentiellement d'ailleurs, pour M. Gulbenkian, plus que pour les autres. Eh bien, je crois qu'on est obligé de mêler les considérations d'argent, de valeur, dans toutes les réflexions concernant la répartition de la sagesse, la répartition du savoir. Un savoir a une valeur. Mais qu'est-ce que la valeur ? La meilleure définition, elle a été donnée par un prix Nobel français d'économie, Maurice Allais, qui disait la valeur n'est pas une qualité, n'est pas une quantité que l'on peut attribuer à un bien, c'est une qualité qui dépend de l'environnement de ce bien. Eh bien, le mot valeur est donc, si on en croit Maurice Allais, un mot dont on peut se passer, dont on devrait se passer. De même qu'on doit se passer de propriété intellectuelle, il nous faut apprendre à se passer du mot valeur. Imaginez une société qui ne croit plus à la valeur marchande des objets. Elle aurait intellectuellement raison, mais il est peu probable qu'elle sera écoutée. Voilà quelques mots que je voulais développer à revenir à la définition de l'homme comme un individu spécifique, capable de devenir lui-même au contact des autres. Deuxièmement, une vision de la construction de ces individus, les uns par les autres, ce qui suppose que les rencontres qu'ils ont eues les uns avec les autres ont été fécondes. Et cette fécondité dépend de l'attitude qu'ils avaient lors des rencontres. Une rencontre à base de conflit, à base de destruction, est une rencontre qu'il faut éviter, alors qu'elle peut être créatrice. Voilà le critère final. Obtenir une société où les rencontres soient des occasions de revaloriser le chacun.
La rencontre d'Albert Jacquard et Richard Stallman a déjà été féconde. Hein. On est dans la bonne voie. Donc je propose de vous donner la parole pour continuer à la féconder.
Matériel, brevet.
J'ai rien entendu. Il parle trop faiblement pour voir.
Il demande ce que vous pensez du brevet pour les matériels et du matériel libre.
À moi ?
Peut-être, oui.
Je trouve que les brevets posent des problèmes différents selon le champ. Par exemple, les brevets dans l'informatique gênent le développement de logiciels parce qu'ils menacent tout développeur de logiciels et les entreprises qui l'utilisent. parce que chaque brevet s'applique à une idée, mais un grand programme doit combiner beaucoup d'idées, comme des milliers d'idées. Et dans un pays avec la politique idiote d'autoriser les brevets sur les idées informatiques, si 10% des idées sont brevetées, ce seront des centaines d'idées brevetées dans un programme, des centaines de procès possibles aux développeurs et aux utilisateurs de ce programme. C'est fou. Et cette politique ne réussit même à faire son but, qui est supposément de promouvoir le développement de l'informatique. Mais c'est plutôt un obstacle. Mais dans d'autres champs, les problèmes des brevets sont complètement différents. Rien à voir, rien en commun. Sauf qu'ils viennent de la même loi. Par exemple, il y a les drogues. Dans les drogues, on peut avoir plus d'un brevet sur la même drogue. Et c'est vrai qu'on peut inventer une drogue nouvelle et trouver qu'elle est déjà brevetée par quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas le droit de la produire. Mais il ne peut pas y avoir beaucoup de brevets sur, pas centaines de brevets sur une drogue, parce que notre capacité de combiner des idées pharmaceutiques n'est pas si avancée. Personne ne sait combiner des milliers d'idées dans une drogue. Peut-être 10, peut-être. Donc, ce problème est... donc, les entreprises pharmaceutiques sont capables de passer cet obstacle. Mais le problème des brevets sur les drogues, c'est dans les pays pauvres ou pour les gens pauvres dans beaucoup de pays qui ne peuvent pas payer le prix de la drogue. En Inde, l'Inde a adopté dans les années 70 une loi très sage de brevets qui disait que breveter une drogue n'était pas possible, mais on pouvait breveter une manière de produire une drogue. C'était pour encourager la recherche en comment produire mieux les drogues connues pour réduire le prix. Et cette loi a réussi à réduire beaucoup le prix des drogues en Inde. Mais l'Organisation mondiale du commerce, dans un acte d'assassinat massif, a exigé le changement de cette loi et son remplacement par une loi meurtrieuse. Et pour ça, les chefs de l'Organisation mondiale du commerce et les politiciens qui ont adopté cet agrément devraient être poursuivis à l'AI pour la meurtre massive. Mais c'est un problème complètement différent parce qu'il ne s'agit que du prix. Mais c'est un problème très important parce que c'est vie ou mort. Dans l'agriculture, les brevets posent d'autres problèmes parce qu'ils nient aux agriculteurs le droit de reproduire les semences. Trois problèmes de structure complètement différents dans une loi. Et, mais il y a d'autres champs, comme la production des voitures, où les brevets seulement changent des relations entre des grandes entreprises, et je n'ai pas d'opinion. Peut-être ce n'est pas important qu'il y ait des brevets ou pas.
Et sur le matériel libre
Rappeler que les quatre libertés sont intéressantes pour les choses que nous pouvons facilement copier et modifier, comme par exemple les œuvres. Si nous avons une copie d'une œuvre dans l'ordinateur, avec l'ordinateur nous pouvons faire des copies, nous pouvons faire des changements. Donc la liberté de pouvoir le faire a des effets dans notre vie. Mais avec par exemple cette microphone, ces libertés n'ont aucun sens. Est-ce que les microphones doivent être libres? Ça peu importe, ça ne changerait rien parce que ce serait des libertés purement théoriques impossibles à exercer. Donc je ne me bats pas pour une liberté que je ne pourrais pas, que personne ne pourrait exercer dans sa vie. Mais dans le futur, ça peut être différent. Dans 50 années, peut-être nous aurions des fabricateurs personnels pour faire toutes les choses. Et les instructions de fabrication de quelque chose dans un fabricateur personnel doivent être libres. Parce que ce sont des œuvres d'utilisation pratique dans la vie pour faire des travaux. Mais pas tous, parce qu'il y a aussi des objets décoratifs à faire dans les fabricateurs personnels. Et je crois que les instructions pour les dessins d'objets décoratifs sont de l'art. Donc je les traiterai comme d'autres œuvres artistiques.
Mais dans certaines manifestations du logiciel libre, des fois on propose de la bière libre, donc en fait c'est pas de la bière libre.
Mais une recette peut être libre, et les recettes doivent être libres.
D'accord.
Mais Adrien veut dire.
Non, c'est lui.
Donc il y a des mains qui se lèvent là, oui.
Je vais parler plus philosophique sur la liberté justement. Sur la liberté justement, est-ce que la liberté, elle permet pas justement de pouvoir créer des conflits et par les conflits créer et générer des choses? Parce qu'on a éliminé le conflit. Enfin, M. Jacquard a éliminé le conflit comme source de restrictions sur l'évolution. Donc j'aimerais avoir un peu, c'est un peu une pensée nietzschéenne, on va dire, l'avis de M. Jacquin. Vous pouvez répéter plus fort, là. Alors, je répète, c'est pour mettre en parallèle la notion de conflit et de création. Dans la liberté, est-ce que la liberté, justement, nous permet le conflit et par le conflit, créer et générer? Parce que la pensée de, comment dire, par rapport à ce qu'elle dit sur le partage de l'argent au niveau des artistes, d'uniformiser et de passer par l'État, ça c'est un aparté, Est-ce que ça nivelle pas par le bas les libertés de conflit et de création?
Je crois qu'il n'y a pas opposition entre conflit et création. En fait, une rencontre, pour être féconde, doit être en partie conflictuelle. Et pour autant, ça n'est pas une action qui ressemble à une compétition. Dans une rencontre, il y a les deux attitudes extrêmes sont la compétition où je veux me débarrasser de l'autre, être un gagnant, l'emporter sur lui. Et l'autre attitude, c'est l'émulation, où je suis heureux que l'autre soit meilleur que moi, car il peut m'aider à être meilleur que moi. Je cours avec vous, vous courez plus vite que moi, si on est dans une ambiance de compétition. J'essaie de gagner quand même, quitte à tricher, vous faire un coq en jambes. Je serai gagnant au prix de la triche, mais c'est pas grave, c'est mon rôle de compétiteur. Au contraire, deuxième attitude, je cours avec vous, vous courez plus vite que moi, je m'en réjouis, car je me dis, il va m'aider à mieux courir. Et par conséquent, c'est de l'émulation. L'important, c'est de ne pas transformer les conflits en opposition violente et en compétition, mais de les remplacer par de l'émulation, qui signifie une coopération. Malheureusement, on a, dans notre société, développé l'idée que la nature nous obligeait à la compétition, ce qui est une interprétation fausse du darwinisme. On est persuadé, dans notre société, que l'important, c'est de gagner. En fait, si on ne cherche qu'à gagner, on est sûr que l'aboutissement, ce sera la catastrophe, car il y a la mort au bout. L'émulation n'empêche pas la mort, mais elle lui donne un autre goût. Par conséquent, derrière votre remarque, pour moi, il y a une erreur, qui est l'erreur de Darwin. Darwin nous l'a appris d'une façon remarquable, que l'évolution entre des espèces a eu lieu, et il a cherché quel était le moteur de cette évolution. Et ce qu'il a trouvé de mieux, c'est la sélection naturelle. Mais c'est une vision très arbitraire. En fait, ce qui avait manqué à Darwin, c'est de comprendre ce qui se passait quand on passait le patrimoine génétique d'une génération à la suivante. Cette transmission de la réalité biologique n'avait été comprise qu'à la suite des travaux de Mendel. Elle dit le contraire de ce que disait Darwin. On n'a pas besoin de sélection naturelle pour expliquer l'évolution. Ce dont on a besoin, c'est du rôle du hasard dans la transmission de la procréation. Mais là, c'est tout un cours que je vais commencer à développer, ça serait trop, mais j'insiste, la sélection naturelle est une idée que l'on peut abandonner, on n'en a pas besoin pour expliquer l'évolution. Ce qu'il faut connaître, c'est le rôle du hasard dans la transmission individuelle. Mais là, je vous donne rendez-vous dans une série de cours qu'il faut mettre en place pour repenser autrement cette vision que nous avons de l'évolution liée à la sélection.
Bon, on s'inscrira. Non, on s'inscrira au cours, là. Il y avait une question, là.
Juste comme les micros portent mal, on peut l'utiliser, mais n'oublions pas que nous avons un organe. Ça évite de monter sur une technique défaillante. Libre ou pas.
Comment il s'appelle, ce débuté, là? Vous avez dans les bras. Bon, j'ai pas entendu, ça ne va pas porter. Monsieur Jacquard, vous disiez que chacun d'entre nous n'est que l'ensemble des liens qu'on a pu tisser avec les autres. Que pensez-vous de l'évolution de l'homme et de la société avec disons, l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux. Comment vous voyez évoluer l'homme dans cette nouvelle connexion avec l'autre? Avec les réseaux sociaux, en fait, tout ce qu'il y a, tout ce qui est autour d'Internet aujourd'hui, comment vont évoluer justement les relations qui sont à la base de la définition de l'être humain selon vous?
J'aimerais vous donner raison, mais je vis en marge de l'Internet, donc je n'ai pas l'interlocuteur qu'il vous faut. Je ne sais pas m'en servir.
Ce serait pourtant intéressant d'avoir votre avis.
Mon ordinateur me traite d'imbécile à peu près tous les jours. Et je ne peux pas lui donner tort. Parce que quelqu'un qui est présent d'ailleurs, ce soir ici, m'aide à jouer avec mon ordinateur, sinon tout ça, je ne sais pas faire. Donc je n'ai pas une opinion loyale vis-à-vis de votre question. Je ne crois pas que les liens passant par les machines comme l'ordinateur soient des liens de haute qualité. L'ordinateur répond à la question qu'on a posée. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser une autre question que le tête ordinateur ne s'est pas toujours posée. En fait, c'est une aide à la réflexion, une aide à la... mais ça ne remplace pas la réflexion. J'aime bien m'apercevoir, par exemple, que... Tant pis, je vous demande 3 minutes d'arithmétique. L'arithmétique, vous savez tout ce que c'est. Un nombre pair, vous savez ce que c'est. Un nombre premier, vous savez aussi. L'addition, vous connaissez. Je prends ces trois mots, l'addition, le nombre pair, le nombre premier. Et si je vous dis, et je crée un langage où 2 plus 2 fait, c'est 4, c'est vrai. 2 plus 2 égale 25, c'est faux. Donc, un domaine. Quand je dis une phrase, je sais qu'elle sera soit vraie, soit fausse. Eh bien, c'est faux. Car si je vous dis que tout nombre pair peut être décomposé en la somme de deux nombres premiers, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Probablement, vous n'y avez jamais réfléchi, mais vous vous apercevez qu'un nombre pair comme 10, c'est 7 plus 3, ça marche. Comme 100, c'est 47 plus 53, ça marche. Prenez n'importe quel nombre pair, vous trouverez deux nombres premiers dans la somme fait le nombre pair. Est-ce que c'est toujours vrai? Celui qui a découvert ça il y a 200 et quelques années a écrit au meilleur matheux de l'époque, c'était Euler, il m'a répondu, ça marche, mais je ne peux pas démontrer que c'est vrai. Et 2 siècles et demi plus tard, on est en train de démontrer qu'on ne pourra jamais démontrer que c'est vrai ou que c'est faux. Cette phrase admirable que je viens de vous dire, on ne peut pas démontrer, etc., cette phrase-là, jamais l'ordinateur me la suggérera. J'ai besoin de toute autre chose pour vivre avec mon appareil, pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. C'est pourquoi j'ai l'impression que, à force de me traiter d'imbécile, mon ordinateur va mal terminer sa carrière.
Non, restez gentil avec quand même.
Non.
Richard, sur les liens.
J'ai pas entendu la question ni la réponse. Je suis de l'oreille.
La question des liens entre les individus par l'intermédiaire des réseaux sociaux.
Ce n'est pas une question, c'est un grand sujet. Je ne sais pas répondre à ce grand sujet. J'aurais besoin de quelque chose de plus étroit pour avoir une réponse.
Pas de problème. Oui, là. Oui, il y en a 3, là, vas-y.
Merci. Donc, une question pour Richard Stallman. Vous avez parlé de l'appui aux artistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les producteurs des 2 autres catégories d'œuvres, les œuvres scientifiques, donc de témoignage et d'opinion, et les œuvres de la vie pratique, comme par exemple les programmeurs?
Pour les œuvres scientifiques, les États et parfois des entreprises financent la recherche. Et les chercheurs écrivent leurs articles comme une partie du travail financé. Donc il n'y a rien à faire. Les revues scientifiques ne leur paient pas. Donc il n'y a rien à remplacer. Ces auteurs font le travail et donnent le travail sans paiement à une revue qui gêne la distribution de l'article. C'est vrai que la revue fait un service utile. Peer review, comment dit-on? Je n'entends rien que tu dis.
Revue par les pairs.
Quoi?
Revue à référer,
peut-être. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Donc vraiment, la solution est connue, il ne faut que la volonté de l'appliquer. Quant au programme, la solution que j'ai proposée pour l'art ne fonctionnerait pas pour les programmes, ni plus généralement pour les œuvres à utilisation pratique, parce que c'est commun que des centaines ou des milliers de contributeurs participent dans la production d'une œuvre. Et il ne serait pas pratique de leur donner de l'argent. Il serait même impossible de décider quelle fraction de cet argent mérite chaque contributeur. Cette question pose des problèmes philosophiques sans réponse. Mais heureusement, il paraît que beaucoup participent dans le développement des œuvres pratiques. Donc, pas besoin. Mais les États peuvent participer dans le financement du développement de logiciels libres. Et les États financent déjà la plupart d'œuvres éducatives. Donc, les États pourraient payer quelqu'un, ou beaucoup, pour écrire des livres de texte libres, comme ils payent maintenant.
Est-ce que vous pensez que le logiciel libre, tout ce qui est politique du libre, en fait,
je n'entends presque pas.
Est-ce que vous pensez que cette politique en fait favorise la mémoire en fait, le fait de conserver la conservation en fait à la fois des idées et puis comme vous dites des recettes, une recette qui n'est pas on va dire réécrite, pas réécrite mais diffuser en fait, elle peut se perdre.
Je n'entends pas et je ne comprends pas. C'est dommage, mais est-ce que vous pouvez dire brièvement la question?
Peux-je parler de la mémoire et en fait de la façon en fait de gérer de gérer les idées en fait de telle sorte que puisse conserver de façon meilleure en fait tout ce qui est produit.
Je ne comprends pas bien le sujet. Est-ce qu'il s'agit des recettes pas explicites que des cuisiniers utilisent sans noter les détails?
Non, c'est pas ça. C'est en fait...
Je suis perdu.
C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, comment dire, diffusé peut disparaître, en fait. C'est ce que vous parliez avec les ordinateurs, les choses qui auraient été créées une fois.
Donc en fait, il s'agit des recettes privées qu'un cuisinier ne publie pas.
Un document que quelqu'un a écrit, une idée qu'il a pu émettre.
Je suis perdu.
Est-ce que c'est préférable en fait d'avoir quelque chose qui est...
Est-ce que par rapport au problème de garder les idées, de les préserver, du fait qu'il y a des idées qui ne se circulent plus, qui ne se diffusent plus, comment finalement favoriser ce que tu disais, là, garantir que finalement l'ensemble des idées circulent pour garantir une...
Est-ce qu'il s'agit des idées pas publiées?
Des idées pas publiées pour garantir...
donc une recette que quelqu'un utilise sans les, sans l'écrire, sans le, sans le raconter. Ce que je propose, je n'entends rien.
C'est aussi les DRM qui empêchent les bibliothèques d'avoir une mémoire à long terme.
Mais non, non, ce sont deux sujets complètement différents, parce que une idée privée dans la tête d'une personne, il n'est pas obligé à le dire, et s'il préfère de ne pas le dire, tout le droit d'auteur n'a rien à voir. Donc c'est une autre question. Nous pourrions peut-être proposer que les cuisiniers écrivent leurs recettes secrètes pour les garder en cas de son mort. De sa mort, c'est possible, on peut l'envisager. Le but du système de brevet était théoriquement de convaincre les gens à publier leurs idées, mais ce système a été complètement distordu et maintenant ne sert plus ce but. C'est l'excuse, mais pas vraiment le but. Je ne voudrais pas appliquer les brevets plus largement pour dans un essai de convaincre les gens à publier les choses, parce que je sais que ce système a été corrompu. Il y a aussi le problème des œuvres publiées une fois qui se trouvent dans les bibliothèques. Et les bibliothèques n'osent pas les distribuer. Donc, le changement que je propose aidera en ce cas, parce que les bibliothèques pourraient les distribuer, pourraient partager les copies.
Oui, là.
Monsieur Jacquard. Vous avez distingué le rôle de l'État, enfin l'intérêt de l'État et de l'entreprise, et quelle place assigneriez-vous à l'État ?
Quelle place
pour
l'État ?
Oui.
Mais l'État, c'est moi. Je crois qu'il faut que j'affirme ça. L'État, c'est moi. C'est... Hein, sur 50 millions ou 60 millions de Français.
Non, c'est moi.
Bravo.
C'est une blague.
Donnez-moi votre papier. Votre passeport. Et mon objectif, bien, je vais vous répondre par une petite anecdote vraie. Ça s'est passé à 500 mètres d'ici, où je défilais dans les rues de Paris pour les droits au logement et pour les papiers, avec des amis qui n'avaient pas de papier, qui risquaient d'aller en prison. Et j'étais avec les camarades en train de défiler et en poussant des grands cris, « Des papiers pour tous, des papiers pour tous !» Je gueulais comme tout le monde. Et à 500 mètres d'ici, devant une pharmacie, j'ai eu tout d'un coup une illumination, comme Jeanne d'Arc. Je me suis dit, « Faut pas dire des papiers pour tous, il faut dire des papiers pour personne. » On a quand même continué, mais il faut des papiers pour personne, pour que l'État ne soit pas capable d'emprisonner, de limiter les libertés. Et il n'y a pas que l'État qui limite les libertés, il y a aussi les entreprises. Et tout à l'heure, en écoutant mon voisin, je me disais, est-ce qu'il va parler, mais j'ai mal compris, du rôle, des rôles spécifiques de l'État d'une part et de l'entreprise de l'autre. Je crois que nous vivons avec une espèce de fatalisme qui nous fait croire que les entreprises sont nécessairement gagnantes dans leur conflit avec l'État. C'est pourtant l'inverse qu'il faut obtenir. Il faut obtenir que celui qui gouverne, c'est Sarkozy, c'est Jacquard, et ça n'est pas le patron de Monsanto. Le vrai chef, c'est celui que nous avons élu. Alors bien sûr, on peut dire qu'on a été mal gouverné, etc. Ça, c'est toujours vrai. Mais il nous faut comprendre qu'au-dessus des entreprises, il y a l'État. Justement parce que l'État, c'est mort.
Oui. Bonjour. Le micro.
Richard, c'est pour vous. En fait, vous voulez que l'État reverse de l'argent aux artistes?
Je n'entends pas. Il faut me parler plus lentement.
Vous voulez que l'État reverse de l'argent aux artistes en fonction du succès qu'ils ont?
Oui, c'est une des méthodes que j'ai proposées.
Et pour faire cela, il faudrait quantifier le succès.
Comment? Oui, je propose d'utiliser des sondages pour déterminer le succès. Pas exact, mais environ de chaque artiste, sans surveiller les utilisateurs.
Donc, moi, je voudrais poser une question. Vous venez de dire, Monsieur Jacquard, que on devait affirmer que l'État était au-dessus des entreprises, mais quelque part, on a un souci là-dedans, puisque la plupart de ces entreprises sont des multinationales, sont implantées dans plein d'États différents et se servent justement de la législation dans ces différents États pour faire différents abus, et se servent surtout de traités internationaux qui sont négociés au-dessus des États. Donc est-ce qu'on n'a pas quelle est votre opinion par rapport à la position justement des nations dans toutes ces questions autour du droit d'auteur et des différentes propriétés qu'on essaie d'imposer sur les idées?
Vous avez raison, il y a des multinationales. La conséquence, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui soit supérieur aux multinationales. Ça suppose une gouvernance planétaire. On parle beaucoup de mondialisation, je n'aime pas le mot monde. Le monde, on ne sait pas ce que c'est le monde. L'univers est trop grand. Ce qui est important, c'est la planète. Ce qui est à m'apporter, moi qui suis l'État français, j'ai à m'apporter une possibilité de changer l'état de la planète, l'état de l'humanité. J'en profite pour le faire. Et pour cela, il me faut bien mettre en place un pouvoir supranational. Les nations sont faites pour disparaître. Les frontières, disait Georges Bidault, un ministre des Affaires étrangères français, les frontières sont faites pour être... sont les cicatrices de l'histoire, elles sont faites pour disparaître. Et par conséquent, il nous faut penser, dans les problèmes les plus larges, une vision planétaire de la gouvernance mondiale. On n'y échappera pas. Et puis, la grande difficulté, c'est évidemment de maintenir la démocratie au niveau des multinationales. Pour cela, il nous faut revoir la façon d'élire nos chefs. Il y a dans l'histoire humaine un exemple. C'était l'histoire de Rome, un exemple de chef d'État qui n'avait pas voulu l'être. C'est pourtant assez clair que celui qui mérite le mieux d'avoir le pouvoir, c'est celui qui n'en a pas voulu. C'est arrivé avec Cincinnatus, qui labourait son champ, et à qui on a obligé à venir gouverner à Rome. Oui, il est retourné dans son champ, aussitôt que ça a été arrangé. Par conséquent, n'oubliez pas que celui qui gouverne, c'est celui qui n'a pas envie de gouverner. Et quant à moi, je ne désire pas gouverner.
Non. Le message est clair, là.
Vous avez compris.
Oui. l'idée de la démocratie, est-ce que tous les pas riches se combinent pour être plus forts que les riches? Mais aujourd'hui, la plupart des États supposément démocratiques se sont rendus aux riches, c'est-à-dire aux entreprises multinationales, et donc sont des États traîtres. Ils font des traités de, appelés de libre commerce, mais vraiment de libre exploitation, pour rendre le pouvoir qu'ils devraient appliquer de manière démocratique aux entreprises. Donc ce sont des traités visés à nuire la démocratie. Évidemment complètement injuste. Donc, un État qui veut s'échapper, qui veut libérer le peuple de cet empire, devrait rompre ces traités, devrait s'exclure de ces traités et rétablir la démocratie. Théoriquement, nous pourrions avoir un seul État mondial et ce peut être... bon, si c'est démocratique. Pour moi, ça paraît plus difficile que rétablir la démocratie dans un pays actuel.
Si au fond il y a des questions, parce qu'on privilégie la salle et d'une façon un peu arbitraire.
Une question qui est un tout petit peu naïve, mais bon, que je vais poser quand même.
Je n'entends pas, c'est trop vite pour moi. Je suis dur d'oreille.
Je vais ralentir un peu. Je disais que ma question est peut-être un tout petit peu naïve, mais je vais quand même la poser. Pour ce qui est de la rémunération, qu'une loi en racine cubique ou logarithme soit une amélioration par rapport au système actuel, j'en conviens. Mais pourquoi se contenter de réduire les inégalités et de ne pas les supprimer complètement, à pousser leur raisonnement jusqu'au bout?
Je n'entends pas bien. Qu'est-ce que vous proposez?
Je propose, pourquoi rémunérer les artistes en fonction de leur succès? Pourquoi est-ce que ceux qui ont plus de succès auraient plus de droits que les autres? Pourquoi ne pas laisser tomber, tout ça et passer directement à l'égalité?
Je n'entends pas ce qu'il dit. C'est complètement inutile. Ça m'embête. Il vient de proposer quelque chose pour me critiquer et je ne sais pas quelle critique il a dit.
Il ne t'a pas, Richard.
Il ne t'a pas critiqué, il a juste dit pourquoi réfléchir avec les racines cubiques ou les logarithmes, pourquoi ne pas simplement supprimer, faire des rémunérations égales et que ceux...
Je ne parle pas de rémunération. J'ai dit que je rejette ce mot parce que ce mot suppose une dette vers l'artiste pour apprécier l'œuvre. Je n'ai pas proposé une manière de rémunérer à personne, mais j'ai proposé une manière d'appuyer les artistes. Mais qui, à qui? À tout le monde? Est-ce que tout le monde est un artiste? Tout le monde est de quelque manière un artiste. Tout le monde peut faire de l'art. Est-ce que nous devons donc appuyer également tout le monde, peut-être dans une société idéale, dans le futur, où il n'y aurait plus de manque de n'importe quoi, où il y aurait beaucoup de ressources, peut-être dans, ce peut être, je pourrais vivre dans une telle société, mais ce changement serait très radical. Donc, j'ai proposé quelque chose de petit qui pourrait être fait aujourd'hui.
Bonjour. Alors, je vais essayer de parler tout doucement. Donc, je pense que vous avez entendu parler aussi du revenu... Je pense que vous avez entendu parler, et vous avez participé également à des conférences qui parlaient du revenu de base, du basic income. Alors, est-ce que ça ne serait pas l'ultime solution pour sauver finalement les artistes et les activités non marchandes, justement ?
Peut-être, mais c'est très radical. Et je veux proposer quelque chose pas radical. Un changement dans une petite portion, dans une seule loi, donc très facile à adopter. Ou, sauf pour l'opposition de l'Empire. Mais l'adoption de ce que je viens de proposer ne provoquerait des grands changements sociaux.
Cette question là, du revenu minimum
En tout cas, ce qui est nécessaire pour avoir une vie décente, ça peut se calculer et ça peut se multiplier par 7 milliards sans problème. Actuellement, la planète produit suffisamment de richesses pour que personne n'ait faim, pour que tout le monde puisse avoir accès à la justice, etc. Par conséquent, c'est une question d'organisation et pas une question de disponibilité. Pour ça, il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour mettre un pays comme la France au service de pays moins riches. Il faut absolument comprendre à quel point nous sommes en porte-à-faux sur des possibilités qui existent. La Terre nous les donne, nous en donnons aussi. Et ça, c'est donc ça n'est pas lunaire, ça n'est pas une utopie. Faire que tout être humain ait le minimum décent, je crois que c'est concrètement possible. C'est une question de volonté. Et c'est ça que nous pourrions demander à ceux qui nous gouvernent. Leur demander d'être non seulement se sentir en charge de la France ou de l'Angleterre ou de l'Inde, mais d'être en charge de la planète. Tout être humain est en charge de la planète. J'ai besoin d'être participant à cette gouvernance mondiale. Il faudrait quelques gestes, peu à peu, ça viendra, mais ça vient trop lentement.
Donc, vos idées sont bien jolies, mais qu'est-ce que vous pensez si on continue comme ça, pensez-vous qu'on pourrait devenir condamné à être libre? Et donc, je veux dire, par exemple, un artiste qui a une très grande estime de soi, il pourrait ne pas vouloir donner sa partition. Ou un chef de cuisine pourrait ne pas vouloir donner sa recette. Et donc, est-ce que vous pensez que ce genre de personnes serait en tort?
Est-ce que cette question est posée à moi?
Oui, d'abord.
Je ne propose pas d'exiger la publication d'aucune œuvre. Je pars de comment d'un remplacement d'un système actuel qui essaie d'appuyer ceux qui publient des œuvres. Mais si je le coupe, comment parler à toute l'audience? Il y a besoin de ce microphone. Donc, si quelqu'un utilise une recette sans la publier, nous n'aurons pas de copie. Et la question d'avoir ou ne pas avoir le droit de faire d'autres copies, ni de le changer, ne se posera pas.
Et les autres pourraient afficher la copie.
Je n'entends rien. C'est inutile.
Les autres pourraient exiger la copie.
Non, c'est ce qu'ils disent. C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Je ne propose pas d'exiger des copies. Des fois, pas pour une recette, mais des fois, il peut y avoir quelque œuvre utile pour quelque chose si importante que ce serait un devoir envers la société de publier l'œuvre. Je ne crois pas qu'une recette puisse être si importante, mais peut-être un programme, peut-être. C'est une autre question. Ce n'est pas la question à laquelle je me suis dirigé.
Bonsoir. Moi, je voudrais vous faire part d'un constat qui est que l'Occident, en général, les pays industrialisés, se sont désindustrialisés, en fait, au fil du dernier siècle. Et il me semble que nous produisons majoritairement des biens immatériels, c'est-à-dire des brevets, des œuvres culturelles, qu'on regroupe faussement sous le terme de propriété intellectuelle.
Mais il faut ne pas l'utiliser. C'est une confusion. Ce que vous venez de dire est pure confusion. Les brevets n'ont rien à voir avec les droits d'auteur.
Oui. Mais l'Occident, en général, s'est spécialisé dans de la production immatérielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, j'espère?
Pas vraiment. Non.
Je trouve que c'est une erreur de combiner, même jusqu'à ce point, les idées et les œuvres.
Bon, mais vous êtes d'accord que l'Occident s'est désindustrialisé?
Oui, jusqu'à un point.
Jusqu'à un point. Donc, dans la mesure où les biens matériels ne sont pas copiables à l'infini, par contre, les biens immatériels, eux, sont facilement duplicables à l'infini.
Non, parce que la duplication s'applique uniquement aux œuvres. Une idée peut être transmise, mais on ne la copie pas.
Bien, merci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, dans la mesure où il y a une inégalité de traitement entre les biens matériels et les biens immatériels...
Je ne vois pas d'inégalité. Ce sont deux choses complètement différentes. Et l'idée de les traiter de manière égale est absurde.
Bon, d'accord. Donc, ma question ne se pose pas. Je voulais faire le postulat que ce combat qu'essayent de mener les pays industrialisés pour cette. Je vais décliner autour pour ne pas vous offusquer cette propriété intellectuelle.
C'est trop vite. Je n'ai entendu que l'expression propriété intellectuelle qui ne veut dire rien.
Alors, cet acharnement que nous avons, nous, les pays industrialisés, à défendre ces brevets, ces droits d'auteur, etc., est-ce que c'est finalement pas une guerre qui se prépare, les prémices d'une guerre qui se prépare entre nous, entre les pays industrialisés, enfin, anciens industrialisés, les pays de l'Occident, et le reste du monde?
Je ne sais pas. Ce que je note est que les entreprises qui possèdent et utilisent les droits d'auteur n'appartiennent à aucun pays. Aucun pays n'a le droit de les protéger. Et ces entreprises exploitent les gens dans tous les pays, et donc les gens dans tous les pays doivent les traiter comme d'ennemis. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que on ne produit plus de biens matériels et qu'on ne sait plus les produire.
Ce n'est pas vrai. C'est seulement que les ouvriers chinois reçoivent moins de salaire. C'est si simple.
Encore deux questions.
C'est un bon programme, ça.
Ah bah oui.
Bonsoir. J'ai une question au sujet des... spécialement pour M. Stallman. Que pensez-vous de la diffusion, de la promotion de tout ce qui est aspect du livre, donc musique, de, musique libre, film libre et logiciel libre sur des plateformes fermées?
Sur les plateformes quoi?
Je
n'aime pas utiliser ce mot fermé ni ouvert, parce qu'il faut noter que ceux qui promeuvent du logiciel libre mais ne veulent pas poser la question en termes éthiques, qui veulent éviter les questions éthiques, ont l'habitude de dire ouvert pour ne pas dire libre. Et ils disent « fermé » pour ne pas dire « privateur ». Et je ne suis pas leur opinion, donc je n'utilise pas le mot « ouvert » ni « fermé » dans ce contexte. Mais s'il s'agit de faire un programme libre qui a besoin de tourner sur une plateforme privatrice, c'est évidemment... un programme piégé. Ce programme peut être libre, mais il n'est pas capable d'être utilisé dans le monde libre où nous rejetons la plateforme privatrice. Donc c'est une erreur normalement c'est une erreur d'écrire le programme comme ça. Il faudrait écrire le programme différemment pour pouvoir fonctionner sur une plateforme aussi libre. Mais ce problème peut être curé si on développe une autre plateforme libre pour le même langage. À ce moment, le programme pourra fonctionner dans le monde libre. et ce que nous avons fait avec le développement d'une plateforme libre pour Java. Il y avait beaucoup de programmes en Java qui ne pouvaient pas fonctionner dans le monde libre. Mais maintenant, ils peuvent. Mais vous avez parlé de la musique libre. Il faut noter que un morceau de musique ou un enregistrement de musique est libre s'il vient avec les quatre libertés. Et je ne dis pas que la musique doit être libre, je dis qu'elle doit être partageable, ce qui est moins. Mais un morceau de musique ou une partition peut être libre et je ne me plains pas, je ne m'oppose pas à la musique qui est libre, mais je n'exige pas tant. Mais de toute manière, je ne comprends pas comment un morceau de musique pourrait avoir besoin d'une plateforme pas libre. Il y a des formats de diffusion d'audio qui gênent la liberté. Il y a des formats secrets, par exemple. Il faut ne pas utiliser ces formats pour la diffusion, mais l'enregistrement même pourrait être diffusé dans n'importe quel format. C'est un choix à faire. Donc il faut choisir bien, mais ce n'est pas que ce morceau de musique a besoin d'une plateforme pas libre. Dites plutôt que ce site diffuse ce morceau de musique dans un format pas libre. Et donc ce site fait une erreur. Ce site devrait le diffuser dans un autre format, mais ce n'est pas un problème avec le morceau ni avec l'enregistrement. Et c'est la même chose pour la vidéo. Il y a des formats secrets, des formats brevetés, et c'est un grand problème. Mais c'est un choix à faire dans la distribution de la vidéo. Et pas un problème... comment dit-on inherent en français?
Inhérent.
Ce n'est pas un problème inhérent, c'est un problème d'un choix dans la distribution. Les formats secrets sont, par exemple, les formats de Real Player et les formats de QuickTime, souvent les formats de Microsoft. Le Windows Media Player souvent sont secrets, mais il y a aussi des problèmes de format breveté, comme par exemple MP3 et MPEG-2, MPEG-4 sont des formats brevetés. Donc quand je fais un fichier de musique, je ne le fais jamais en format MP3.
Oui.
Juste préciser ma question, c'était notamment au niveau des idées du livre. Donc pas seulement tout ce qui est œuvre, que ce soit de la musique ou des films, mais aussi que pensez-vous par exemple que lorsqu'une association se met à créer par exemple un site sur Patreon, se met à créer une page Facebook.
Je n'entends pas les consonnes.
Excusez-moi. Que pensez-vous notamment lorsqu'un site qui se dit diffuser du livre se met à créer une page Facebook, notamment, qui est une plateforme plutôt fermée, juste pour...
Non. Facebook n'est pas fermé. Je n'ose pas ça non plus, parce que les questions qui se posent pour un service sont des questions complètement différentes. Libre et privateur s'appliquent à une œuvre, pas à un service. Il y a des questions éthiques pour les services, mais elles sont d'autres questions. Je crois que c'est meilleur de ne pas utiliser Facebook et je prière de ne pas mettre des photos de moi dans Facebook parce que je n'aime pas leur système de reconnaissance automatique de visage, mais c'est une autre question.
Vous pensez que c'est légitime de vouloir diffuser
les idées du libre par l'intermédiaire de n'importe quelle plateforme?
C'est une autre question. Je crois que je conseille les gens de ne pas utiliser Facebook et je ne l'utilise pas. Mais ça n'a rien à voir avec la question de ce qu'une œuvre soit libre ou pas. C'est une autre question. Il y a beaucoup de questions éthiques dans la vie. C'est une erreur d'essayer de réduire toutes les questions éthiques dans la vie à une seule question entre elles qui s'appliquerait à toutes les activités de la vie. Non, ce sont des questions différentes. Les questions qui s'appliquent à un service, comme par exemple Facebook, sont différentes.
À ce propos, j'aurais une question sur vos espaces d'indignation.
Vos espaces de...
d'indignation, c'est-à-dire que moi,
je n'entends pas.
Je suis indigné contre le fait que l'air qu'on respire ou les bruits, par exemple, en vacances, quelqu'un qui fait des bruits avec de la moto, ou toutes les choses qui sont libres.
Indigné, oui. Mais c'est une autre question.
Mais plus général, et vous, je vous pose personnellement, qu'est-ce que vous avez comme perspective de quels sont les meilleurs espaces d'indignation pour vous actuellement?
De
ce problème général.